Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Camille Imbert, mais aussi Clément Salazar, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. On va poursuivre notre série consacrée au nouvel ordre international. On essaye de voir comment les relations internationales pourraient se recomposer sous l'effet des événements géopolitiques majeurs. Quels sont les pays, les régions qui pourraient en tirer bénéfice et celles, au contraire, qui risquent d'en pâtir. Après avoir beaucoup parlé hier des États-Unis et de la Russie, on va se tourner ce matin vers l'Europe.
Le destin de la nation hongroise est désormais lié à celui des nations européennes et fait maintenant tellement corps avec cette union qu'aujourd'hui, aucun peuple, y compris le peuple de Hongrie, ne peut être libre si l'Europe ne l'est pas. Et aujourd'hui, l'Europe est faible, fragile, malade. Aujourd'hui, l'Europe, notre patrie commune, n'est pas libre.
Einfach von einem Gipfel.
Aujourd'hui, nous parlons de l'agenda de Bratislava et nous sommes heureusement d'accord. Nous n'espérons pas de solution au problème de l'Europe de ce sommet. Nous sommes dans une situation critique. Il s'agit de montrer par des actions que nous augmentons notre sécurité intérieure et extérieure en combattant le terrorisme ensemble.
Il y a des interrogations sur l'avenir de l'Europe. Alors, soit c'est la dislocation, soit c'est la dilution. Soit c'est au contraire la volonté commune de donner un projet à l'Europe. C'est ce que j'appelle la nouvelle impulsion.
Viktor Orban, François Hollande, Angela Merkel, il existe malheureusement une certaine unanimité pour dire que l'Union européenne se porte mal, puis qu'elle est en danger. Brexit, montée des populismes, crise migratoire, lutte contre le terrorisme, fragilité de la zone euro, austérité, dette grecque, la famille européenne ébranlée par une année tumultueuse, voire chaotique, ne semble pas au bout de ses peines. En effet, l'agenda politique qui l'attend en 2017 s'annonce agité. Il sera marqué par de nombreuses élections décisives, notamment bien sûr ici en France au printemps et en Allemagne à l'automne. Le ton pour cette année a été donné. Il faut relancer une union attrayante, comme l'ont annoncé les 27 à Bratislava pour leur premier sommet sans le Royaume-Uni. Mais à un moment où l'Europe a besoin de prendre des décisions collectives importantes au niveau économique et en matière de politique étrangère, elle apparaît plus désunie que jamais. Alors comment cette Europe, en manque d'inspiration et de solidarité, peut-elle retrouver de sa superbe pour faire à nouveau rêver ces 500 millions d'Européens, d'Européennes et réaffirmer peut-être son rayonnement à l'étranger? Voilà la grande question sur laquelle nous allons nous pencher ce matin pour se faire deux invités. D'abord, Christian Lequen, bonjour.
Bonjour Florian.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po. Vous allez publier dans quelques jours un ouvrage intitulé « Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français ». Ça sera le 12 janvier dans quelques jours aux éditions du CNRS. À vos côtés, Pierre Larouturou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, homme politique, porte-parole de Nouvelle Donne, auteur notamment de deux ouvrages récents. La gauche n'a plus droit à l'erreur que vous aviez écrit avec Michel Rocard. Et puis 2017, Le chaos ou le sursaut, à nous d'agir, qui est paru chez Fayard. Vous avez émis le souhait, on le sait, de participer à la primaire de la Belle Alliance Populaire, ce qui vous a été refusé par le Parti Socialiste qui en assurait l'organisation. Vous vous présenterez malgré cela à l'élection présidentielle.
On va tout faire, oui, pour se faire entendre.
À condition d'avoir les parrainages, bien sûr.
On est en train de rechercher. Mmh.
Vous avez pas peur d'affaiblir celui qui sortira vainqueur de cette primaire?
Ah ben écoutez, nous on a joué le jeu, j'avais signé l'appel de Piketty, on avait dit que Nouvelle Donne voulait participer, parce qu'on crève du manque de débat sur l'Europe, comme sur les questions sociales, comme sur l'éducation. Notre pays s'effondre par manque de débat, et nous on avait dit chiche, on accepte un débat à la loyale. Et puis Cambadélis a décidé que ça n'était pas une primaire de toute la gauche, mais juste une primaire réservée aux anciens ministres de François Hollande. Ça va être passionnant comme débat. Ils vont s'engueuler en disant « toi, t'as été ministre pendant 2 ans, oui, mais toi, t'as été ministre 3 ans, oui, mais c'est toi, voilà ». Ça va être absolument passionnant. Donc, puisque Cambadélis ne veut pas du débat et ne veut pas du rassemblement, Nouvelle Donne va se donner les moyens de se faire entendre autrement.
Alors, nous, on a choisi ce matin de quitter justement le terrain national pour aller du côté de l'Europe. On va commencer avec cette question de la lutte contre le terrorisme. On le sait, bien sûr, la nuit du jour de l'an a été marquée par cette nouvelle tuerie qui s'est s'est déroulé dans une boîte de nuit à Istanbul. 39 personnes ont été tuées, une quinzaine d'étrangers, parmi lesquels d'ailleurs une franco-turque. L'attaque a été revendiquée par Daesh. Le mode opératoire fait beaucoup penser, bien sûr, à ce qui s'était passé au Bataclan. Il y a quelques jours, c'était Berlin qui était touché par une attaque au camion sur un marché de Noël, là aussi revendiqué par Daesh. Hier, François Hollande a fait un déplacement à Bagdad. Il a déclaré dans une conférence de presse qu'agir contre le terrorisme en Irak, c'était aussi prévenir des actes terroristes sur notre sol. Sauf qu'on a quand même l'impression que, en la matière, les États membres manquent un peu de coordination. On voit même qu'il y a encore beaucoup d'efforts à réaliser en matière d'échange d'informations. En réalité, les questions de sécurité, elles restent la souveraineté des États. Quelles sont, selon vous, ça sera ma première question, les principales failles dans le domaine de la sécurité européenne pour se protéger, pour se prémunir contre le terrorisme? Et est-ce qu'on peut espérer des avancées en la matière pour 2017? On va commencer avec vous, Christian Le Cannes.
Oui, d'abord, je pense que l'absence de pouvoir politique européen rend l'idée d'une de toute police européenne difficile. Donc,
la fameuse police fédérale européenne, le FBI à l'européenne, ça,
pas du tout, parce que pour qu'il y ait un FBI européen, il faudrait qu'il y ait un ministre de l'Intérieur européen, ce qui n'est pas le cas. Et on ne s'achemine pas vers cette solution. Donc, le seul moyen, c'est effectivement de pratiquer la coordination des polices nationales. Ça passe, à mon avis, par plusieurs éléments concrets. Le premier, c'est les échanges de renseignements. Et là, il faut absolument que ces échanges deviennent plus fluides. On sait qu'il y a des pays qui ont plus de ressources que d'autres. La France, la Grande-Bretagne, par exemple, ont d'excellents services de renseignement. C'est moins le cas des pays plus petits. Mais en tout cas, il faut échanger.
Et vous les sentez disposés, justement, ces États membres, à échanger ces informations?
Je pense que c'est difficile parce que c'est pas dans la culture justement des services de renseignement d'échanger d'une manière fluide. Mais le deuxième point, c'est, et on l'a vu d'ailleurs dans l'arrestation de l'auteur de l'attentat de Berlin, c'est d'avoir des polices de proximité qui fassent du travail. Beaucoup plus que garder les frontières. Je veux dire, garder les frontières, vous savez, il y a toujours des moyens de contourner le passage des frontières. Alors que ce travail de proximité, pourquoi est-ce que cet homme a été arrêté? Il a été arrêté tout simplement parce qu'il a été contrôlé auprès de la gare de Milan par des policiers italiens. Ça, c'est efficace. Et donc, ça nécessite pour chaque État de faire cet effort d'avoir des polices de proximité qui fassent des contrôles, mais on bute parfois effectivement sur des questions de liberté publique. Il faut que tout ça soit encadré et respecte quand même les conditions que prévoit la démocratie.
Pierre Larouturou, sur cette question de la lutte contre le terrorisme, cette question aussi des frontières, parce qu'effectivement, Christian Le Cannes a raison de le rappeler, Anis Amri, l'auteur de l'attentat de Berlin, donc était en Allemagne, il est passé en France, et puis en Italie où il a été abattu. Il y avait un mandat d'arrêt européen qui avait été lancé et un contrôle renforcé des frontières. On se souvient qu'en 2015, certains pays avaient réintroduit certains contrôles à certaines frontières. Une prolongation d'ailleurs de ces contrôles a été décidée en novembre dernier, parce que la fin des dérogations était pour le 12 novembre. Donc il fallait prolonger tout ça. Est-ce que la lutte contre le terrorisme, selon vous, Pierre Larouturou, peut justifier le retour des frontières dans l'espace Schengen?
Non, je pense qu'il faut garder la libre circulation, qu'il faut qu'on puisse... Mais ça ne veut pas dire la naïveté. Dans notre corps, vous comme moi, on a des centaines de ganglions lymphatiques. Notre corps est uni. Le sang peut circuler, la lymphe peut circuler, l'énergie peut circuler des doigts de pied jusqu'au cerveau. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun système pour nous protéger. Il y a notre peau qui nous protège, il y a la frontière extérieure. Et puis on a des centaines de ganglions lymphatiques qui, s'il y a une cellule qui se cancérise ou s'il y a un virus qui est rentré, vont l'attaquer. Donc je pense qu'il faut garder l'idée, un des éléments de l'idéal européen, la libre circulation. On est bien à Paris, on peut aller à Prague, on peut aller à Barcelone, et c'est génial, et je pense qu'il ne faut surtout pas remettre ça en cause, mais sans aucune naïveté, vous l'avez dit.
Et alors, concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire la police de proximité, je soutiens complètement ce que vient. Est-ce que c'est normal
en France? Et le nouveau corps de...
Non, ça veut dire aussi sortir de l'austérité européenne, très concrètement. Est-ce qu'on donne les moyens à la police et à la justice? En France, comme en Allemagne, comme en Italie, il y a la question de la coordination que vous avez soulevée tous les deux, qui est fondamentale. Et si on n'est pas unis, on voit bien comment un terroriste peut en quelques heures circuler et traverser 3 ou 4 pays. Donc c'est ridicule, c'est scandaleux si on n'est pas capable d'améliorer notre coordination. Mais quand on voit qu'en France, on manque de juges, on manque de moyens pour la police et pour la justice, il faut sortir des politiques d'austérité, être capable de muscler, de sortir de notre naïveté, donner les moyens à la police et à la justice en gardant la libre circulation, en gardant le plaisir d'être ensemble dans tous nos pays.
Alors, l'une des conditions pour que la dérogation soit acceptée, celle de prolonger cette suspension partielle de Schengen, c'était que soit mis en place le nouveau corps de garde frontière européenne. Est-ce que ça, c'est un dispositif de nature, justement, à nous mieux nous protéger, en tout cas?
Oui, l'Europe a été, là, je rejoins aussi ce que vous dites, on a été quand même très naïf, où il y a un laisser-faire pour être poli ou un je m'en foutisme depuis 30 ans qui est scandaleux. En 89, quand le mur de Berlin est tombé, tout de suite, dans plusieurs pays, les gens disent « il faut une union politique ». Souvenez-vous la lettre d'Helmut Kohl à François Mitterrand qui disait « ok, on va vers l'union monétaire pour montrer que l'Allemagne et la France restent ensemble. On fait un truc énorme, on va vers une union monétaire. » Mais immédiatement, la droite et la gauche en Allemagne disaient « il faut aller vers une union politique ». Le système qui marchait bien avec 6 pays, déjà ne marche plus à 15, et à 25 ou 28, ce sera insupportable, ça va être la paralysie. Donc ça fait presque 30 ans maintenant, le mur de Berlin, ça fait presque 30 ans qu'on sait que ces institutions ne fonctionnent pas. Vous parliez dans votre bonne sonde de Bratislava, Matteo Renzi à la fin n'est pas allé à la conférence de presse en disant « j'en ai marre des mensonges ». Quand François Hollande parle d'une nouvelle impulsion, il n'y a que lui qui a compris quelle était la nouvelle impulsion depuis 4 ans. L'Europe meurt de ne pas avoir un fonctionnement démocratique, et ce sont les lobbies ou ce sont les technocrates qui prennent le pouvoir.
Christian Lequel, Ville et Région.
Oui, sur la question des dérogations, la France applique cette dérogation. Elle l'applique à l'ensemble de ses frontières, ce qui n'est pas le cas d'autres pays qui l'appliquent à certaines frontières. Par exemple, l'Allemagne avec l'Autriche, le Danemark avec la Suède, etc. Nous, on l'applique en théorie à l'ensemble des frontières. Sauf que si vous prenez les trains, il y a plusieurs milliers de trains par jour. Donc, il est impossible pour la police française de contrôler l'ensemble des trains. Voilà, on est face... Ou alors, il faut aller vers une fermeture de l'espace national, et ça, personne ne le souhaite. Moi, je considère que ça serait une régression par rapport à tout ce que nous avons vécu depuis 30 ans. C'est ce que Mme Le Pen souhaite. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'elle réussirait à le mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est ce qu'elle souhaite, elle, que la France soit fermée totalement.
Pour des terroristes, pardon de vous couper, mais les contrôles les plus compliqués, ce n'est pas forcément aux frontières. Si on sait qu'à telle gare, à telle frontière, poste frontière, il y aura la police, c'est facile de contourner. Par contre, des contrôles inopinés dans n'importe quel train ou dans n'importe quelle voiture, quel que soit l'endroit où elle circule, ça peut être une façon de déstabiliser ces réseaux.
Je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu sur la question de la sécurité pour parler un peu de l'Europe de la défense, et ensuite on reviendra sur le Brexit et sur ses conséquences. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui nous poussent à penser que peut-être l'Europe devrait mettre sur pied sa propre sécurité. Il y a la menace terroriste dont on parlait, il y a un futur président des États-Unis qui quand même ne semble pas, même si on va voir ce qu'il fait, mais ne semble plus disposé à assurer la sécurité de ses alliés comme avant. En tout cas, on a la Russie aussi qui joue subtilement sur la déstabilisation de l'Union européenne, via notamment le conflit syrien et la crise migratoire qu'il y a derrière. Il y a eu une feuille de route récemment adoptée par l'Union européenne pour renforcer sa défense. Quel regard d'abord vous portez sur ce plan européen de la défense? Parce qu'on garde quand même cette impression que là encore, les divergences sont très grandes pour espérer voir enfin émerger une vraie Europe de la défense, même si on l'a vu par exemple, Berlin semble disposé à augmenter un tout petit peu son budget de la sécurité. On voit bien qu'en la matière, on n'a pas de consensus à l'échelle de l'Union européenne.
Oui,
Christian Lequen et puis ensuite Pierre Larouture.
Je pense d'abord si on veut une défense crédible, il faut qu'on ait les ressources et les moyens. Je veux dire, on ne peut pas faire du déclaratoire simplement en matière de défense. Il faut avoir du matériel militaire, il faut avoir des forces d'intervention. Voilà. Pour l'instant, il y a deux pays qui sont bien dotés, c'est la France et la Grande-Bretagne, et encore avec des discussions. On l'a vu récemment en France avec l'interview qu'a donné le chef d'état-major des armées. Mais il se trouve qu'un des deux quitte l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne. Voilà. Alors, c'est pas encore fait, mais la perspective politique est celle-ci. Donc, ça implique des responsabilités pour d'autres, vous avez raison. Et en particulier, ça pose la question de l'Allemagne.
Et vous pensez que c'est plausible de voir enfin émerger cette Europe de la défense? Vous y croyez?
Je pense que ce qui va se passer aux États-Unis sera très déterminant. Si effectivement on voit qu'il y a un isolationnisme de la part de Trump avec une remise en cause des garanties de sécurité de l'OTAN, à ce moment-là, il y aura une incitation. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que Trump aille jusque-là.
Pierre Larouturou, sur l'Europe de la défense et peut-être sur une question plus générale, c'est-à-dire est-ce que finalement, il faut parler un peu de vision aussi, est-ce que c'est une bonne idée que de vouloir relancer le projet européen sur la question sécuritaire ?
Pas seulement. Nous, à Nouvelle-Donne, on dit qu'il faut 4 ou 5 poutres maîtresses pour reconstruire l'Europe.
Et la question sécuritaire en fait partie.
Elle en fait partie, mais il y a le traité de l'Europe sociale. Vous parliez du livre que j'ai fait avec Michel Rocard, mais en 2003, avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, avec José Bové et Jacques Delors, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale. En disant, dans le traité de Maastricht, il y avait des choses très concrètes, il y avait 5 critères financiers sur le déficit, sur la dette, sur l'inflation. On s'est donné un objectif très ambitieux et on est arrivé à créer la monnaie unique, c'est quand même génial. Pourquoi est-ce qu'en matière d'Europe sociale, on est toujours dans le dumping ? C'est toujours, les Allemands ont baissé les salaires, donc nous aussi, il faut baisser les salaires. Les Allemands ont baissé les retraites, donc nous aussi, on va en finir par en mourir. Cette stratégie de dumping est mortelle du point de vue social et du point de vue économique. Donc en 2003, déjà, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, on avait proposé un traité de l'Europe sociale. Romano Prodi nous avait reçus et avait soutenu cette initiative. Et c'est Giscard qui n'avait pas voulu de ce traité de l'Europe sociale. Donc il faut une Europe, et sans doute ne pas attendre d'être d'accord à 27. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut redémarrer avec 9 ou 10 pays, soit avec ce qu'on appelle techniquement une coopération renforcée, soit en repartant d'une page blanche, mais on n'y arrivera pas à 27 et c'est pas grave. Le départ de l'Angleterre, honnêtement, ça m'a pas fait pleurer. Ce qui me fait pleurer, c'est l'incapacité des pays du continent à ne plus avoir aucune ambition. Sur la question de la défense, ça fait plus de 50 ans qu'on en parle. C'était un des grands regrets de Pierre Mendès France à la fin de sa vie, c'était de ne pas avoir vu naître une armée européenne. Et plus près de nous, en 92, quand c'était l'horreur à Sarajevo, on disait « il faut que les États-Unis interviennent ». Et comme les États-Unis n'intervenaient pas à Sarajevo, on a dit « c'est le moment de l'Europe ». L'Europe doit avoir une défense, une diplomatie. On est 25 ans plus tard et on verse des larmes sur Alep. Donc est-ce qu'on choisit l'impuissance ? Mais alors, on laisse à Monsieur Xi Jinping, le président chinois, à Monsieur Poutine, être les policiers du monde. Voilà, quand vous voyez la course au surarmement entre la Chine et le reste du monde et les pays, c'est de plus en plus dangereux. Ou est-ce qu'on se donne les moyens, ne serait-ce que, je répète, avec 9 ou 10 pays, d'avoir une vraie diplomatie, une force de paix, une force d'interposition. Et les moyens financiers dont vous parliez, Monsieur Le Guen, je suis tout à fait d'accord, il faut pas faire du déclaratif. Est-ce qu'on lutte contre le dumping fiscal? Juste un mot. Le taux d'impôt sur les bénéfices en Europe est tombé à 25%. Depuis que l'Irlande est rentrée, chaque pays baisse son impôt. Les bénéfices explosent, mais chaque pays baisse son impôt et donc ses ressources.
Il faut une harmonisation fiscale au niveau européen.
Le taux d'impôt est à 40%. Je répète les deux chiffres. Le taux d'impôt, jusqu'à ce que Trump arrive au pouvoir, le taux d'impôt sur les bénéfices est à 40% aux États-Unis. Il est tombé à 25% en Europe. Est-ce qu'on continue ce dumping ou est-ce qu'on fait un impôt fédéral sur les bénéfices?
On reviendra tout à l'heure. Vous parlez de dumping social. On reviendra tout à l'heure sur la question des travailleurs détachés avec Pavel Fischer, l'ancien ambassadeur tchèque. Je voudrais qu'on aborde la question du Brexit. Vous vouliez intervenir juste avant. Christian Le Guen, je vous en prie.
Oui, je suis d'accord.
Encore un mot sur la sécurité, et puis on passe au Brexit.
Labatourou, sauf que je ne suis pas sûr que les sociétés européennes considèrent toutes que la question de l'accroissement des ressources militaires soit une priorité. Je veux dire, là, il y a des cultures nationales qui sont différentes, et le cas de l'Allemagne, de ce point de vue, est extrêmement intéressant.
Elle a beaucoup hésité avant d'augmenter son budget.
On sent en Allemagne qu'il y a...
Ça bouge
au sein du personnel politique, de l'élite politique, des think tanks à Berlin, etc. Mais je ne suis pas sûr que la société allemande soit véritablement prête à relayer ce que les élites allemandes considèrent aujourd'hui comme devant être mis sur la table. Parce que là, il y a des longues, longues traditions depuis 1949 de non-intervention. Tout ça a été transmis par l'éducation à l'école.
Pas mal d'amis et même de la famille en Allemagne. On avait dit la même chose, que les Allemands étaient tellement attachés à leur monnaie qu'ils ne voudraient pas la monnaie unique. Puis on avait dit qu'ils ne voudraient pas de création monétaire. Je crois que les Allemands, comme les Français, comprennent qu'on est dans un monde de plus en plus dangereux et que ou bien on renonce à nos valeurs et on va dans un monde encore plus dangereux très très vite avec Poutine, Trump, ou est-ce que l'Europe est capable d'avoir une force de paix?
Mais l'exemple de la monnaie est un excellent exemple. Le chancelier Kohl l'a imposé contre la volonté de l'opinion publique allemande et à l'époque d'une bonne partie des experts économiques. À mon avis, il avait raison de le faire.
Mais aujourd'hui, les Allemands sont attachés à l'euro. Hein, quand on regarde les études de Lyon, il y avait un sondage hier, je crois, dans la Croix.
Il faut se méfier des sondages, mais les eurobaromètres sont faits auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et à part en Angleterre, on voit que partout, les peuples comprennent qu'il faut une défense. Et que ou bien on y va avec une défense commune, ou bien chacun de nous est trop petit pour peser dans un monde de plus en plus compliqué. Je crois que les esprits ont bien évolué depuis 10 ou 15 ans.
Revenons sur le Brexit, si vous voulez bien. 23 juin dernier, mai, à la surprise générale, les Britanniques ont fait le choix de sortir de l'Union européenne, 51,9% des suffrages exprimés, résultat qui avait provoqué, on s'en souvient, la démission de David Cameron, qui en avait décidé, on s'en souvient, l'organisation, laissant la place donc à Theresa May. Les 6 derniers mois de 2016 étaient marqués par la réflexion sur quelle stratégie à adopter justement pour sortir de l'Union européenne. Désormais, les actes vont devoir arriver. Visiblement, Theresa May, elle envisage clairement de faire usage de l'article 50 d'ici la fin mars. Ensuite, on aura, on nous dit, 2 ans de longues négociations, mais les modalités pour le moment de cette sortie, elles sont pas tout à fait claires et elles vont se décider là maintenant, sachant que le Parlement britannique n'a pas l'air d'être tout à fait sur la ligne du gouvernement. Alors, quel scénario pour le Brexit ? Hard Brexit, comme on dit, soft Brexit. Et puis, quelles conséquences pour l'unité européenne ? Pierre Larouturou.
Honnêtement, moi, ce qui me soucie le plus, c'est est-ce qu'on est capable de relancer ? On dit souvent que quand on est sur un vélo, si on arrête d'avancer, on tombe. Est-ce que le cœur de l'Europe, est-ce que la France, l'Allemagne, l'Italie, avec 8 ou 9 pays, on est capable de redonner de l'espoir ? Est-ce qu'on est capable de se dire qu'on veut une Europe, qu'on va, d'ici 1 ou 2 ans, avoir une Europe vraiment démocratique, avoir une Europe sociale, une Europe capable d'agir pour le climat ? Vous avez peut-être vu l'article qu'on a fait avec Jean Jouzel, qui dit qu'en ce moment, la Banque Centrale Européenne va créer 1000 milliards. C'est quand même colossal. Mario Draghi va créer 1000 milliards, qui met sur les marchés financiers, en espérant que les marchés financiers vont relancer la croissance. Et nous, ce qu'on dit avec Jouzel et d'autres, c'est que ces 1000 milliards, il faut les mettre sur un plan Marshall pour sauver le climat, et pendant 20 ans, la France, l'Allemagne, l'Italie auraient de quoi économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables. Ça peut créer 5 millions d'emplois. Donc, je crois que, moi, honnêtement, les Anglais n'ont jamais voulu d'une Europe politique, ils n'ont jamais voulu d'une Europe sociale, ils n'ont jamais. Souvenez-vous le discours de Churchill en 1946. Churchill est venu sur le continent à Zurich, il a dit, il faut faire les États-Unis d'Europe et l'Angleterre sera le meilleur allié à l'extérieur. L'Angleterre sera votre meilleur allié à l'extérieur. Donc le départ de l'Angleterre, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle si ça permet de décoincer les négociations. Ce qui me trouble, c'est que je répète, quand François Hollande dit qu'il faut une nouvelle impulsion, ça fait 4 ans et demi qu'il est à l'Élysée, on n'a pas compris la nouvelle impulsion. Donc est-ce que oui ou non, on veut... C'est très clair.
La nouvelle impulsion pour vous, c'est quoi ?
C'est
réagir tout de suite.
Nous, ce qu'on dit à Nouvelle-Donne, c'est qu'on se donne 2 ans pour rédiger des nouveaux traités. Et le même jour, il y aurait un référendum dans le même dimanche, dans 9 ou 10 pays.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est pas pour ou contre.
Donc vous restez sur cette idée-là, parce que cette idée-là, c'était les engagements que vous aviez pris. Vous avez fait une lettre d'engagement au président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, dans laquelle vous décriviez un certain nombre d'engagements, et notamment sur la question européenne, et vous disiez, il faut organiser un grand référendum pan-européen. C'était exactement une semaine avant le Brexit. Vous avez vu le résultat du Brexit. Vous gardez cette idée, il faut organiser un référendum. Vous n'avez pas peur
votre conclusion, c'est qu'il faut avoir peur du peuple.
Ma conclusion, c'est que peut-être c'est un risque, et que peut-être vous allez, en organisant des référendums, en Europe, vers un grand délitement.
Mais attendez, excusez-moi, le délitement, il est en cours en ce moment. Si on laisse la précarité augmenter, quand vous avez vu l'étude qui a été censurée par Mme Merkel en Allemagne, avec 16 millions de pauvres en Allemagne. Donc, est-ce qu'on continue une Europe du dumping ? Est-ce qu'on continue une Europe de la compétition qui met les peuples les uns contre les autres et qui nous appauvrit tous, sauf les 1% les plus riches ? Donc, si, je vous dis pas avec l'Europe actuelle, s'il y avait un référendum aujourd'hui, ce serait le non. Mais on se donne 2 ans, parce qu'on a des amis et des alliés dans les syndicats allemands. La plupart des Allemands en ont marre de l'austérité. La plupart des Allemands comprennent qu'il y a un problème climatique et que quand on crée 1000 milliards au lieu de les donner aux marchés financiers, on peut les mettre sur un plan Marshall pour sauver le climat. On fait le pari parce qu'on a des alliés. On est avec Miguel Moratinos en Espagne, avec Angelika Schwaldürun et les syndicats allemands, avec Philippe Mechtat en Belgique, l'ancien patron de la Banque Européenne d'Investissement, qui dit oui, on peut mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Et on fait le pari que dans 2 ans, on peut avoir des nouveaux traités. C'est l'idée d'Habermas qui dit que le même jour, pour pas que ce soit un référendum pour ou contre Merkel, pour ou contre Rajoy, pour ou contre Tartampion, c'est le même jour, les peuples disent, est-ce que oui ou non, vous voulez cette Europe, mais une Europe vraiment démocratique ? Est-ce que c'est pas une Europe avec où ce sont des commissaires comme Monsieur Barroso, c'est un vrai scandale public ? Donc c'est une Europe vraiment démocratique, où c'est le vote des citoyens tous les 5 ans qui donne une majorité au Parlement, et c'est la majorité du Parlement qui dirige. Donc si c'est une Europe avec un traité social, avec une Europe qui lutte contre les paradis fiscaux, une Europe qui met le paquet sur la sécurité, sur le progrès social, sur le climat, je pense qu'on peut avoir un oui dans plusieurs pays. Anglais regretteront d'être partis et d'autres pays voudront rentrer. Mais le problème n'est pas les Anglais, le problème est-ce qu'on est capable de redémarrer de façon un peu excitante avec 9 ou 10 pays.
Sur la question du Brexit tout d'abord, hard ou soft Brexit. D'abord, on peut réexpliquer. Hard Brexit, ça veut dire rupture complète avec l'Union européenne. Soft, ça veut dire on garde un lien contractuel et dans la plupart des cas, on pense au marché intérieur, mais peut-être un marché intérieur sans la libre circulation des personnes, car c'est ce que certains en Grande-Bretagne souhaiteraient. Le gouvernement britannique n'a pas répondu à cette question, c'est-à-dire que le gouvernement britannique est profondément divisé là-dessus. Donc il n'y a pas de stratégie pour l'instant, et vous avez raison de rappeler que Mme May pourtant s'est engagée à invoquer l'article 50 d'ici la fin du mois de mars. Donc là, ils sont un peu dans l'improvisation, les Britanniques aujourd'hui. Moi, ce que je pense profondément, c'est que, quelle que soit la solution hard ou soft, c'est l'occasion pour les Européens continentaux de réorganiser l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut choisir de faire du Brexit une opportunité. Et là, après les élections présidentielles et l'élection au Bundestag en Allemagne, j'espère qu'il y aura une initiative franco-allemande forte pour essayer justement de réorganiser l'Europe autour d'un nouveau projet. Voilà. Quant aux Britanniques, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de jouer la montre, c'est évident. Et donc les négociations et ils vont essayer de conserver le marché intérieur le plus possible sans avoir la libre circulation des personnes. À mon avis, sur cette question, il ne faut pas céder. Il faut être dur, car c'est la fin du principe du marché intérieur si on accepte ce compromis. Mais ce sera long, ce sera long. Ça prendra peut-être 10 ans.
On reviendra sur cette question-là tout à l'heure, parce qu'on parlera bien sûr des pays d'Europe centrale, pour qui évidemment c'est une question essentielle. Vers un nouvel ordre international, c'est notre série cette semaine. On parle aujourd'hui de l'avenir de l'Europe, vers le grand délitement, point d'interrogation. C'est notre question ce matin avec Christian Lequesne et Pierre Larouturou.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors après le Grexit évité de justesse en juillet 2015, le Brexit donc voté en juin, eh bien tous les regards se portent désormais vers les Pays-Bas dans l'attente des élections législatives de mars prochain. S'il l'emporte, Geert Wilders, leader du parti d'extrême droite PVV qui a le vent en poupe, promet d'organiser un référendum vers la sortie de l'Union européenne, direction les Pays-Bas.
Beaucoup de personnes en ont marre de Bruxelles et de l'Union européenne. Les Néerlandais ont l'impression qu'ils n'ont pas leur mot à dire.
Aux Pays-Bas, nous devrions avoir un référendum national sur le Nexit le plus vite possible.
Geert Wilders, donc le chef du PVV, parti pour la liberté, droite radicale, qui après le Brexit exultait, demandait de suivre le chemin avec un éventuel Nexit. Du coup, l'inquiétude des europhiles se fait sentir. Un Nexit serait quand même peut-être plus encore mortel pour l'Union que le Brexit, parce que le Royaume-Uni, rappelons-le, bénéficiait déjà de nombreuses dérogations, à la différence des Pays-Bas. Laurent Chambon, qui est professeur de français, mais aussi de sciences politiques à Amsterdam, va analyser pour nous cette montée de l'euroscepticisme dans un pays qui a pourtant toujours été pro-européen. Il est au micro de Camille Imbert. Laurent Chambon.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la crise économique a été vraiment très très violente ici. On a perdu, on pense, entre 15 et 20% du produit intérieur brut. Et les classes sociales inférieures ont été les plus touchées. Et c'est eux qui votent le plus souvent pour Wilders. Donc, objectivement, les Pays-Bas ont totalement besoin de l'Union européenne et sont devenus aussi riches grâce à l'Union européenne. La vraie question, c'est est-ce que les gens sont en état de saisir ça ? Et on a vu ce qui se passe aux États-Unis, on a vu ce qui se passe en Angleterre. Moi, j'ai peur que les Hollandais perdent de vue le fait que l'Union européenne les a rendus extrêmement riches.
Qu'est-ce que les Néerlandais reprochent du coup précisément à l'Europe ?
Alors, un des plus gros problèmes de l'Europe, l'euro n'est pas un problème en soi en fait, parce que les Pays-Bas en ont vraiment profité. Le problème, c'est la perception de la migration. On a l'impression que des choses sont imposées par Bruxelles pour imposer des migrants, ce qui n'est pas vrai du tout. En fait, on est dans des proportions vraiment négligeables. Mais les gens sont tellement hystérisés sur la question, en particulier sur la question de l'islam, que c'est un sujet qu'on peut plus discuter correctement. En fait, on n'est plus du tout dans le rationnel, on est dans l'irrationnel total. Ça fait des années et le corps électoral a été travaillé depuis plus de 10 ans. On voit les scores de Wilders qui montent à chaque fois. Mais même les autres partis, que ce soit les partis de droite, même les partis de gauche, se positionne à chaque fois contre l'immigration et en particulier contre l'islam. Et c'est ça le problème, à mon avis.
Et si le Nexit était voté, quelles seraient les conséquences concrètes pour le pays ?
Honnêtement, c'est un pays qui est vraiment orienté sur l'export. C'est un espèce de port géant, avec plein de bateaux qui arrivent et qui repartent. Les Hollandais fabriquent très peu de choses, en fait, un petit peu des fleurs, du fromage, mais c'est vraiment à la marge, en fait. Et la plupart du business, il tient en gros au flux économique, et c'est-à-dire financier, et aussi aux produits qui sont fabriqués ailleurs et qui passent par ici. Donc, fermer les frontières avec l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Angleterre, ce serait une espèce de suicide économique total.
Ce serait une catastrophe pour l'Union également, plus encore que le Brexit, selon vous ?
En fait, le problème des Pays-Bas, c'est que c'est un des pays fondateurs. Il ne faut pas oublier que le Benelux, avec la Belgique et Luxembourg, sont les trois pays stabilisateurs qui permettent de stabiliser, en gros, les conflits qu'il peut y avoir entre la France et l'Allemagne. Les Pays-Bas, c'est un pays germanique, mais en même temps très latin et très anglo-saxon. Et donc, ça a toujours eu un rôle vraiment stabilisateur de l'Union européenne. Sans ce rôle stabilisateur, j'ai peur que l'Union explose. Les conflits entre la France et les Pays-Bas sont trop nombreux, entre la France et l'Allemagne, pardon. Donc les Pays-Bas et la Belgique et Luxembourg qui ont ce rôle stabilisateur ne feraient plus leur travail s'ils font plus partie de l'Union.
Laurent Chambon, depuis Amsterdam, professeur de sciences politiques au micro de Camille Imbert, Christian Lequen. C'est vrai que ce Brexit, il présente quand même un danger de voir ce fameux effet domino dont on a beaucoup parlé à la suite du Brexit et qui mettrait totalement à bas ce qu'il reste d'unité européenne.
Oui. L'élection de Wilders éventuelle, parce que enfin de son parti, je suis pas sûr d'ailleurs qu'il puisse gouverner seul. Il serait
certainement obligé de faire les sondages nous disent qu'il est à peu près à 30%. Voilà, faire une coalition.
Effectivement, ça serait un signe très très négatif parce que lui est un des leaders continentaux qui disent suivons le modèle britannique, c'est-à-dire nous devons quitter l'Union européenne. Alors je pense que dans le cas néerlandais, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un effet identité de petits pays par rapport aux grands. Ça c'est un point qu'on oublie parfois en France parce que nous avons une identité de grands pays au sein de l'Union européenne. Mais la plupart des pays de l'Union européenne ne se perçoivent pas comme des grands, hein. Et donc il y a une difficulté des Néerlandais à accepter le processus d'intégration européenne en disant c'est avant tout la décision des grands, quoi. Voilà. Et nous,
et Paris et Berlin, quoi.
Voilà, exactement. Paris-Berlin. Nous ne sommes pas écoutés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Néerlandais soutenaient toujours la place de la Grande-Bretagne en disant c'est un équilibre, c'est une manière d'équilibrer une éventuelle hégémonie franco-allemande. Et puis deuxièmement, c'est un pays qui a essayé le modèle multiculturel aussi. Il faut pas oublier et qui dans le fond, en ressort avec un constat d'échec parce que ça n'a pas véritablement marché. Au contraire, ça a polarisé la question des identités non européennes par rapport à l'identité néerlandaise et en particulier la question de l'islam avec quelques assassinats qui ont été très très symboliques, notamment ce réalisateur et puis aussi le premier leader du premier parti d'extrême droite, Pim Fortuyn, qui a été assassiné aux Pays-Bas. Donc tout ça a donné un climat extrêmement conflictuel. Et je crois que cette question identitaire actuellement est beaucoup plus importante que la question économique dans la manière dont les Néerlandais se positionnent par rapport
traverse l'ensemble de l'Union européenne parce qu'elle était aussi très présente c'était l'un des moteurs du Brexit. Pierre Larouturou, avant de parler de la Grèce, je vous en prie.
Mais cette question identitaire, elle prendrait moins de place, elle aurait des conséquences moins graves s'il n'y avait pas une énorme déception par rapport à l'Europe. On est quand même des millions à être vraiment déçus, à se dire que l'Europe actuelle ne ressemble plus du tout à l'Europe que voulaient Schuman, Monnet, Adenauer. Vous avez parlé du livre que j'ai fait il y a 3 ans avec Michel Rocard. Michel Rocard était quand même un grand Européen, mais lui-même ne voulait même plus qu'on mette un chapitre sur l'Europe. Il me disait, mais Pierre, non, tout ce qu'on a écrit par ailleurs sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les limites de la croissance, est très important et très argumenté. Et Michel Rocard me disait, si on met un chapitre pour dire qu'on peut relancer l'Europe, ça n'est pas crédible. Donc même, c'est pas un populiste, c'était pas un souverainiste. Mais il faut objectivement voir que la déception, et chacun de nous voit bien que ça ne marche pas. Voilà. Quand Barroso, quand on comprend que le patron de la commission était aux ordres des banques, et dès qu'il a fini son mandat, il retourne dans, voilà. C'est absolument scandaleux ce qu'on fait avec la Grèce, on va en parler. Donc il faut comprendre le rejet. Donc cette déception, est-ce qu'on est capable d'en tirer les leçons? Le Brexit, on a vu que la carte des gens qui ont voté non à l'Europe est quand même proche aussi des gens qui sont en situation précaire. Est-ce on est capable de sortir de notre naïveté. Il y a bien un dumping, par exemple, de la Chine. Les États-Unis, qui sont pourtant un pays libéral, ils taxent l'acier chinois à 250%. La Chine est rentrée à l'OMC, elle avait signé 22 conventions sociales pour être admise à l'OMC, elle n'en respecte aucune. Aucune. Eh bien, les États-Unis disent « Ok, mais on va taxer à 250% l'acier chinois pour protéger nos salariés. » Pardon, l'Europe ne taxe qu'à 25%, 10 fois moins. On est les benets, on est les idiots utiles du village mondial. Donc, c'est pas rejeter l'Europe. Moi, je suis un Européen, je ne pense pas qu'on a d'avenir pour nous et pour nos enfants sans une Europe forte, mais on est les benets quand la Chine ne respecte aucune règle sociale, aucune règle environnementale, et qu'on les laisse exporter vers chez nous. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir une Europe qui se protège, qui protège son modèle social et qui est capable d'investir là-dedans? Donc, sinon, la déception, et du coup, la déception peut se transformer en haine.
Un mot peut-être sur la Grèce avant de retrouver Pavel Fischer qui nous attend, qui est au téléphone. On va le retrouver dans quelques instants. Le 14 décembre dernier, la zone euro avait suspendu à la demande de l'Allemagne et de son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, les mesures d'allègement de la dette grecque qui avaient été accordées à Athènes par l'Eurogroupe le 5 décembre, en échange bien sûr de réformes comme à chaque fois. Derrière ce retour en arrière, le fait que le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, avait accordé un report de la hausse de la TVA, mais aussi, je crois, une revalorisation des petites retraites. Cet événement, il montre très bien que la crise grecque, d'abord, continue d'engendrer régulièrement des soubresauts et qu'on n'est pas sorti de cette affaire-là. Et surtout que la liberté d'action, en réalité, du gouvernement grec est très restreinte.
À partir du moment où vous dépendez des subsides financiers des autres, il va de soi que votre souveraineté est limitée.
Mais derrière ça, il y a tout le débat sur la stratégie budgétaire.
Ce qui s'est passé, c'est que les Allemands, dans cette négociation du mois de décembre, M. Schäuble, le ministre des Finances, ont cru nécessaire d'adopter une ligne dure en disant il n'est pas question de rééchelonner, etc. C'est-à-dire, ils sont restés sur une vision extrêmement orthodoxe de la gestion des finances publiques, c'est-à-dire il faut aller vers une réduction au maximum des déficits en touchant aux dépenses, etc. Voilà, ça c'est un peu le problème de Schäuble et des Allemands qui sont autour de sa pensée au sein de la CDU, c'est-à-dire que ce qui a marché chez eux, même si il faut être nuancé, vous aviez raison de rappeler tout à l'heure qu'il y a aussi des millions de personnes en situation de précarité en Allemagne, hein, il faut pas l'oublier, mais enfin, dans l'ensemble, ça a quand même bien marché, ça ne peut pas marcher partout ailleurs.
Or, on va rester bloqué dans ce débat entre austérité et relance et qu'on n'arrivera pas à avoir un consensus à l'échelle de l'Union.
Monsieur Schäuble, il est convaincu qu'il faut faire comme ça partout dans l'Europe et que c'est comme ça qu'on aura une Europe. Parce que dans le fond, il est européen, lui, Schäuble. Il croit à l'Europe. Mais c'est cette question de la projection du modèle allemand qui est, à mon avis, la principale limite. On ne pourra pas appliquer ce système qui a fonctionné en Allemagne.
Sauf que pour l'instant, l'Allemagne l'impose.
Et vous avez dit, on n'arrivera pas à un consensus, donc on bute sur la question démocratique. Est-ce qu'un pays peut, alors que les autres pays sont de l'avis, comme le FMI, que la Grèce a fait déjà des efforts colossaux? La Grèce, il y a 10 ans, avait un déficit énorme. On avait menti. C'est pour ça que le peuple grec a remercié ses dirigeants. Ils avaient menti. Ils avaient fait n'importe quoi. Mais maintenant, la Grèce, après, ils ont fait des sacrifices colossaux et ils arrivent à l'équilibre budgétaire. S'il n'y avait pas des frais financiers, si la Grèce pouvait se... Donc, la plupart des gens pensent comme le FMI, même le Christine Lagarde dit aujourd'hui, il faut rééchelonner la dette. Ce dont l'Allemagne a profité, de mémoire, c'est en 1953, quand l'Allemagne n'arrivait pas à payer sa dette, eh bien, on a dit, ben voilà, on ne va pas vous asphyxier, on divise par deux le niveau de la dette et on vous donne quelques années sans rien rembourser, ce qui a permis à l'Allemagne d'avoir une énorme bouffée d'oxygène. Donc, la façon dont aujourd'hui, c'est même pas l'ensemble des Allemands, M. Schäuble est minoritaire dans son pays, mais la façon dont un gouvernement peut bloquer les autres, ça montre que l'Europe peut mourir d'un manque de démocratie. Parce qu'il faut l'unanimité sur toutes les grandes questions, il faut l'unanimité des 27 ou des 28. Si on était dans un régime parlementaire, il y aurait une majorité, il y aurait un gouvernement européen, je répète, ce que dit Nouvelle-Donne, c'est qu'avec 9 ou 10 pays, on peut d'ici 2 ans ou 3 ans avoir un fonctionnement vraiment démocratique, où c'est le vote des citoyens qui dit quelle est la couleur du Parlement, et il y a un gouvernement démocratique issu du Parlement, et il n'y a pas besoin de l'unanimité. Et des gens qui sont dans la minorité, parce que c'est le système
démocratique. Mais vous aurez toujours les fameux petits pays dont parlait tout à l'heure Christian Lequen qui se sentiront lésés parce qu'ils considéreront qu'ils n'ont pas suffisamment de poids dans ce Parlement.
Non, un citoyen néerlandais aura le même poids qu'un citoyen allemand ou un citoyen italien. Il y aura une respiration. Tandis que là, depuis 20 ans, les gens ont l'impression qu'on vote pour le Parlement européen, on s'en fout, ça continue à être les mêmes politiques. Et on voit bien que le vote au Parlement européen a un effet complètement marginal sur les politiques européennes.
Christian Lequen.
Sur l'Allemagne, je voudrais quand même dire une chose qui est très importante, c'est que les Allemands n'ont jamais arrêté les transferts financiers. C'est-à-dire qu'il y a, depuis qu'on a commencé la gestion de la crise grecque, des transferts financiers.
Oui, ils font preuve de solidarité.
Et les Allemands sont les principaux contributeurs. Maintenant, dans la politique de Schäuble du mois de décembre, il y a aussi un élément de politique intérieure. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, vous avez une partie de la population qui ne veut plus, justement, de ces transferts, que le gouvernement fédéral a continué d'assurer. Et il y a une forte concurrence qui se fait aujourd'hui dans l'espace électoral à la droite de la CDU, c'est le fameux parti Alternative for Deutschland. Donc, je pense que M. Schäuble a voulu aussi avoir une position dure pour des questions de politique intérieure, c'est-à-dire la préparation des élections au Bundestag au mois de septembre prochain.
On va accueillir un nouvel invité, c'est Pavel Fischer. Bonjour Pavel Fischer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien ambassadeur tchèque en France. Septembre dernier, les États membres se réunissaient à Bratislava, en Slovaquie. C'était le premier grand sommet européen depuis le départ de la Grande-Bretagne. Angela Merkel avait parlé d'une situation critique pour l'Europe. François Hollande avait évoqué des interrogations sur l'avenir de l'Europe. Ça sera soit la dislocation, soit la dilution. On l'entendait tout à l'heure pour entamer cette émission. Le Premier ministre slovaque Robert Fico avait appelé à ne pas se quitter sur des vœux pieux, demandait que les Européens fassent face justement à leurs divergences, notamment sur la question de la crise migratoire et l'accueil des migrants dont les États d'Europe centrale se sont montrés, pour le moins, disons, rédhibitoires. D'ailleurs, juste avant le sommet, comme il l'avait fait à plusieurs reprises, le fameux groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque, avait publié un communiqué dans lequel il appelait l'Union européenne à une solidarité flexible entre les États membres. C'était une manière de s'opposer au fameux mécanisme de répartition prévu par la Commission. Tout mécanisme de redistribution doit être volontaire, disait le communiqué. On a du mal, en fait, à comprendre cette raideur des pays d'Europe centrale, alors même qu'ils ne sont pas véritablement menacés par la crise migratoire. Pavel Fischer, est-ce que vous pouvez nous faire comprendre ça?
Vous posez une question que je me pose depuis quelques mois, moi aussi d'ailleurs. Donc, essayons de chercher ensemble. Je crois que cette idée d'une solidarité flexible est une idée qui est toxique, qui peut être toxique et dangereuse en premier chef pour les quatre pays concernés, parce qu'ils seraient les premiers à payer les frais, comme étant des pays bénéficiaires des fonds structurels européens, ils pourraient payer les frais de cette idée d'une certaine flexibilité, c'est-à-dire un peu une Europe à la carte, une solidarité à la carte, et un choix de ce qui nous arrange et de ce qui ne nous arrange pas. Donc je trouve qu'il y a un besoin de retrouver un élan d'une certaine pensée européenne, d'une certaine coopération européenne, d'une certaine solidarité européenne. Et la question migratoire que vous avez mentionnée est devenue une toile de fond de projection de toutes les appréhensions et des peurs nous avons réussi à faire sortir de nos cavernes, et c'est pas un spectacle réjouissant. D'ailleurs, les opinions publiques sont partagées et beaucoup d'initiatives ont essayé de faire face et de prouver que nous sommes restés pays d'accueil, voire pays des gens qui, sur la base volontaire, partaient par exemple dans les Balkans pour aider les réfugiés. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas, Pavel Fischer, pardon de vous couper, une très grande responsabilité des responsables politiques de ces pays? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une utilisation, voire carrément une instrumentalisation de cette question migratoire à des fins de politique interne. Est-ce qu'on ne pourrait pas poser tout simplement l'hypothèse que finalement, si ces pays-là refusent tant ces migrations, alors même qu'ils ne sont pas véritablement envahis, hein, les migrants qui arrivent dans ces pays-là, en général, ce qu'ils veulent, c'est soit rejoindre l'Allemagne, soit rejoindre la Grande-Bretagne. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement tout simplement un instrument de politique interne, cette affaire?
Vous avez tout à fait raison. Comme je ne travaille plus pour le gouvernement et j'ai davantage de liberté, je dirais que vous avez pointé du doigt l'endroit où ça fait mal. La question migratoire est devenue une question de consommation intérieure. Et ceci même en absence de migrants. Paradoxalement, nous n'avons pas beaucoup de demandes d'asile ni d'accueil, parce que, comme vous l'aviez bien dit, les migrants font un peu du shopping, c'est-à-dire ils arrivent à traverser la frontière et ensuite ils traversent les pays européens et cherchent le pays préféré, le pays de rêve, et c'est souvent l'Allemagne, comme vous avez dit, ou bien la Suède encore il y a peu de temps.
Je vais faire réagir nos deux invités ici. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Pavel Fischer. Christian Lequen, Pierre Larouturou. Christian Lequen.
Oui, bonjour Pavel d'abord et bonne année. Je me pose quand même une question concernant l'Europe centrale. C'est la question du rapport au monde non occidental. C'est-à-dire, moi, j'ai le sentiment quand même que les pays d'Europe de l'Ouest, en raison de leur histoire depuis 1945, c'est-à-dire les flux migratoires qui sont arrivés chez nous, les décolonisations, on a quand même des sociétés qui ont été habituées à faire des compromis avec le monde non occidental. J'ai l'impression que vous, parce que vous avez été contraint par l'histoire derrière le rideau de fer, dans le fond, vous avez échappé à ces flux. Et aujourd'hui, il y a une véritable difficulté des sociétés centre-européenne à comprendre ce qu'est le monde non occidental. Et une peur, moi ce qui me frappe beaucoup dans les débats, c'est quand même combien ceci, que ce soit en République tchèque, en Slovaquie, etc., tourne autour de la question de l'islam quand même, et essentiellement, voilà. Donc est-ce que Pavel serait d'accord pour dire que là, il y a une conséquence quand même de l'histoire de l'Europe centrale depuis 1945 ?
Moins de tradition du compromis.
Moins de tradition de compromis et de l'interaction finalement avec les mondes non occidentaux.
Pavel Fischer, et ensuite je te passe la parole à Pierre Larouturou. Pavel Fischer.
C'est une belle construction que je vois présente dans beaucoup de comportements, voire de réactions. Néanmoins, je trouve que la question est beaucoup plus vaste. Si nous regardons les questions écologiques, économiques, de défense, de sécurité et autres, de santé publique, ce sont des sujets dont la gouvernance traverse nécessairement les frontières. Et quittons pour un instant l'Union européenne. Au sein de l'OCDE, nous voyons très bien que les pays développés cherchent justement à trouver des manières de gouverner. Et je trouve que, en règle plus générale, le transfert des défis internationaux, de la gouvernance internationale vers le local, là où les gens vivent, est quelque part déficient. Nous manquons des messagers ou voire des interlocuteurs qui sachent traduire la complexité du monde d'aujourd'hui avec ce qui se passe dans le local. Et aujourd'hui, certains hommes politiques, et je parle pour la République tchèque maintenant, ont réussi à s'incruster dedans et chercher à protéger, entre guillemets, leur population locale des défis de la gouvernance mondiale. Mais c'est un chapitre qui ne va pas durer, qui ne peut pas durer, parce que les défis sont beaucoup trop grands, et sur le plan local, on ne peut pas gérer des défis transfrontaliers avec succès et efficacité.
Pierre Larouturou.
Alors, juste deux remarques très différentes. D'abord, au lieu de parler de migrants, j'aimerais qu'on parle quand même plus de réfugiés et qu'on rappelle les images horribles qu'on a vues à Alep ou ailleurs.
C'est des gens
prennent le risque de mourir en traversant la Méditerranée. C'est pas pour le plaisir.
Vous avez
ils
raison.
Ils viennent pas en Europe pour 50 ans. Ils fuient l'horreur. Et le minimum, c'est qu'on puisse les accueillir pendant un an, deux ans. Moi, quand j'étais petit, on avait quatre boat people à la maison. La France avait accueilli 150 000 réfugiés. On trouvait ça normal d'accueillir 150 000 réfugiés. Aujourd'hui, on est deux fois plus riche. On donne l'impression de ne plus être capable d'accueillir des gens qui fuient la guerre. Donc voilà. Après ça, il faut aussi entendre la colère, la souffrance, qui est une des raisons du vote Trump aux États-Unis, une des raisons du Brexit. Voilà. Il y a une souffrance, il y a une humiliation, ça ne justifie rien, ça ne justifie pas les propos racistes ou les actes racistes ou le refus d'accueillir des gens. Mais je lisais hier un texte de Boris Cyrulnik qui parle de l'humiliation. On est dans le capitalisme dérégulé provoque de plus en plus de frustration et d'humiliation. Est-ce qu'on est capable? Ça n'explique rien, ça ne justifie. Enfin, si, ça explique, mais ça. Donc, est-ce qu'on est capable de changer le modèle économique pour sortir de cette humiliation et de ces frustrations qui poussent à la recherche de boucs émissaires? Et la question aussi, concrètement, quand on parle de l'aide à la Grèce, je reviens au débat d'il y a 5 minutes, ou de l'accueil des réfugiés, qui paye? De façon très vulgaire. Il y a 18 mois, avec Michel Rocard, avec l'Espagnol, l'ancien ministre Miguel Moratinos, avec Philippe Maystadt, l'ancien ministre des Finances belge, on a fait un article qui s'appelait « Nous sommes tous des Grecs allemands ». Nous sommes tous des Grecs allemands. On a tous envie d'aider la Grèce qui a fait des efforts colossaux, qui s'est saignée aux quatre veines. Et en même temps, on est comme les Allemands, on n'a pas envie d'augmenter les impôts. Les Allemands ont payé tout seuls la réunification. Avec Hartz IV, la plupart des Allemands ont perdu 3 ou 5% de revenus. Donc, qui paye? Quand Schäuble doit donner quelques centaines de millions, est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde en Allemagne qui se dit c'est avec nos impôts, ou est-ce que par exemple on met en place une taxe Tobin? Ça fait 10 ans qu'on parle de mettre en place une taxe Tobin. Si on met en place une taxe Tobin qui prendrait 0,1% sur les marchés financiers tous les jours, à la fin de l'année, il y aurait 70 milliards dans les caisses du Parlement européen. On aurait une cagnotte chaque jour, ce serait indolore, 0,1% pour tous ceux qui boursicotent, mais à la fin de l'année, il y aurait 70 milliards dans la cagnotte. Et le Parlement européen pourrait dire à la Grèce, voilà, vous avez besoin de 3 milliards, on vous les donne.
Sauf que tout le monde n'est pas disposé à faire preuve de cette solidarité.
Non, mais justement, la solidarité, est-ce que c'est toujours les salariés et les retraités allemands qui ont l'impression qu'ils vont payer eux pour des gens qui ne connaissent pas et qu'on leur présente comme des gros fainéants, ou est-ce qu'on met en place et les Allemands et les Français des outils contre les paradis fiscaux et contre la spéculation? Et là, la France est coupable. Il y a sur la taxe Tobin, pardon, je finis là-dessus.
Très rapidement, je voudrais donner la parole.
Aussi, qui ont décidé de mettre en place une coopération renforcée pour mettre en place une taxe Tobin, et c'est la France qui bloque, c'est le lobby bancaire et quelques ministres français. Si on avait mis en place cette taxe Tobin, ne serait-ce que depuis un an, les sommes destinées à la Grèce, on les trouverait facilement, et les Allemands seraient tout à fait rassurés.
Christian Lequen, en quelques mots, on arrive à la fin.
Oui, sur la Grèce, si vous permettez, je pense que ce que vous dites sur l'effort considérable qui a été fourni par la population grecque depuis maintenant presque 10 ans est juste. Ceci étant, tout ça est aussi le résultat de problèmes politiques intérieurs. Et je ne voudrais pas non plus qu'on mette la question de la Grèce, de ce qui s'est passé en Grèce, uniquement sur le dos des méchants bailleurs internationaux. C'est le résultat aussi d'une défaillance totale de l'État dans ce pays.
On est d'accord.
Et d'un clientélisme politique terrible. D'une certaine manière, j'espère que ça a un effet de catharsis et que ça permet justement aujourd'hui à la société grecque de réfléchir à ce qu'est l'État grec, comment se comportent les hommes politiques, et j'espère que l'entourage de M. Tsipras est un peu moins corrompu que ne l'a été l'entourage de la plupart de ceux qui l'ont précédé. Donc ça, c'est quand même un point. Quand Schäuble dit, vous savez, il y a des problèmes aussi qui sont liés à des questions endogènes politiques, c'est un point important.
Merci beaucoup, messieurs. On arrive au terme de cette émission. En tout cas, un grand merci. Il y avait encore moult choses à aborder ensemble. J'aurais voulu, avec vous, Pavel Fischer, notamment parler des travailleurs détachés. Il faudra reprendre rendez-vous pour évoquer toutes ces questions, parce qu'il y en avait encore énormément, mais on a encore beaucoup de journées, beaucoup de semaines pour évoquer toutes ces questions. Merci infiniment à vous, Pavel Fischer. Merci à vous, Pierre Larouturou, d'avoir été avec nous. Je rappellerai, la gauche n'a plus droit à l'erreur avec Michel Rocard, mais aussi 2017, le chaos ou le sursaut. Et pour être tout à fait complet, je retrouve aussi l'ouvrage à paraître de vous, Christian Lequen, Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français. C'est bientôt aux éditions du CNRS. Merci infiniment. Presque 11h53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice Couturier et son monde des idées. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On parle d'Europe cette semaine. Hier, vous nous citiez un article publié dans le numéro en cours de la New York Review of Books. Son auteur Timothy Garton Ash y observe que la plupart des grandes histoires de l'Europe ont été publiées durant la période qui s'étend de 1989 à 2008, mais que les historiens qui entreprendront de raconter l'histoire de l'Europe depuis 2008 adopteront un angle très différent.
Et oui, Florian, parce que tout projet de cette ampleur suppose une forme de téléologie. On écrit généralement l'histoire à partir d'un point d'arrivée supposé qui est censé en éclairer le déroulement. Après les révolutions de velours de 1989 et avant la crise de 2008, on écrivait l'histoire de l'Europe à partir de l'idée de son unification progressive. Telle semblait la conclusion logique d'une trajectoire pleine de rivalités et de conflits dépassés. Aujourd'hui, l'UE est menacée d'implosion par l'échec de l'euro, la multiplication des lignes de fracture et le risque d'effets dominos engendrés par le Brexit. Le mouvement vers l'unité n'apparaît plus comme une nécessité historique. C'est vers l'État-nation que les peuples inquiets se tournent pour lui réclamer de la sécurité. Or, celui-ci ne peut que décevoir, car il a perdu une bonne part de ses anciennes capacités, d'où l'appel à l'homme fort, le goût de la démocrature. Lorsqu'un acteur politique subit un échec aussi complet, on a recours aux historiens justement. On leur demande de remonter le cours du temps afin d'identifier quelles erreurs d'appréciation ont pu être commises par les décideurs du moment, à quel moment a été choisi le mauvais aiguillage qui a provoqué l'échec présent. C'est à ce prix, en effet, qu'un nouveau cap correcteur peut être adopté par les dirigeants de l'heure. Alors, plongeons-nous, si vous le voulez, un instant dans ces ambitieuses histoires de l'Europe qui ont presque toutes été publiées durant cette heure de gloire européenne qui suivit la révolution tranquille accomplie par les peuples d'Europe centrale contre la tyrannie communiste, ce que Garton Ash lui-même a appelé la révolution, une révolution réformiste et sans effusion de sang menée par des modérés. Eh bien, la plus ambitieuse de toutes ces histoires, celle de Norman Davies, Europe History, traduite dans une vingtaine de langues, mais pas en français, a été publiée en anglais en 1996, et son auteur s'arrête précautionneusement à la dislocation de l'Union soviétique. À ses yeux, le rideau de fer avait constitué un cadre rassurant pour les dirigeants des deux côtés, mais il menaçait, écrit-il, de faire de l'Europe, de l'Ouest, un club de riches messieurs à courte vue et satisfaits d'eux-mêmes, peu soucieux du bien-être des autres. La perspective de voir l'Union européenne accepter l'adhésion de ce qu'il appelait alors l'Europe 2, tchèque, slovaque, hongrois et polonais, lui semblait éloignée et plus lointaine encore, celle de ce qu'il appelait l'Europe 3, les autres anciens blocs, les anciens pays du bloc, redevenus indépendants, parmi lesquels la Roumanie et la Bulgarie. Et il prévenait Norman Davies, les institutions qui ont permis d'agir au 6 puis au 12 ne permettront pas de gérer une union élargie à l'Est. Et on tient là l'une des premières explications de nos déboires actuels.
Il est vrai que le système de prise de décision au sein de l'Union européenne a en effet montré ses limites à l'occasion de deux crises récentes, face à la crise de l'euro d'abord et puis face à la crise des migrants dont on parlait.
En effet, dans le premier cas, des personnalités venues d'horizons aussi différents que Joseph Stiglitz, Hans-Werner Sinn ou François Hesbourg ont montré qu'une monnaie commune sans convergence des politiques budgétaires et sans création d'un trésor commun, loin de faire converger les économies des partenaires, allait au contraire les faire diverger. Et la gestion de la crise a été de facto, on s'en souvient, concédée à une institution non élue et peu contrôlée, la BCE. Face à la crise des migrants aussi, on a vu l'UE incapable d'assumer des décisions communes. Entre les pays qui ont pris la décision d'accueillir 1 million de personnes en un an, comme l'Allemagne, et ceux qui n'en ont voulu aucun, comme l'Europe centrale, il n'y avait pas de compromis possible. La chancelière allemande, ensuite, on l'a vu, a pris toutes sortes d'initiatives, comme d'aller négocier avec le président de la République turque au nom de l'Europe, mais sans mandat. L'historien et homme politique républicain Giuseppe Galasso a lui aussi publié en 1996, comme Norman Davies donc, une copieuse Storia d'Europa, dont les trois volumes ont là encore découragé la traduction française. Et c'est dommage. Il pointait en effet plusieurs signes de faiblesse européenne, précurseurs de la crise actuelle, en particulier l'incapacité manifestée par les Européens face aux guerres de succession yougoslaves. Comme on s'en souvient peut-être, ce sont les États-Unis, à l'époque dirigés par Bill Clinton, qui ont mis fin à l'interminable siège de Sarajevo et aux provocations suivantes de Karadzic et Milosevic. L'Union européenne, divisée sur ce dossier entre les deux membres de ce que Galasso appelle le directoire franco-allemand, s'était en effet révélée incapable de résoudre un conflit dangereux dans sa périphérie immédiate. L'UE compte trop d'intérêts divergents, trop de sensibilités éloignées pour parvenir à se comporter comme une puissance. Or, le monde dans lequel nous sommes entrés est un monde hobbesien, comme l'écrit Marc Leonard, le directeur du European Council of Foreign Relations. Toute la question, c'est l'UE était-elle trop en avance ou bien s'est-elle trompée de monde en croyant pouvoir favoriser le droit international au détriment des rapports de puissance? A-t-elle péché par idéalisme ou bien cet idéalisme, comme dirait Nietzsche, était-il simplement le masque de son impuissance?
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique consacrée à l'Union européenne. Vous poursuivrez bien sûr cette série tout au long de la semaine. Évidemment, ça croisait beaucoup les discussions qu'on avait juste avant. Et Christian Lequesne et Pierre Larouturou, qui sont encore dans le studio avec nous, auraient adoré bien sûr répondre. Mais du coup, on ne leur permet pas et on les réinvitera pour réévoquer ces sujets européens. En tout cas, un grand merci. On peut retrouver bien sûr votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un instant, justement, sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et la grande table.